8. Je me souviens de ce qui se passa ensuite avec une précision déchirante. J'assistais à la scène depuis l'escalier, à une douzaine de marches au-dessus du palanquin abandonné, et aujourd'hui encore, je la revois dans mes rêves. Radar aboyait, mais je l'entendais à peine en raison du bourdonnement incessant à rendre fou qui montait du puits obscur. Léa leva son poignard et, sans la moindre hésitation, elle le plongea dans la plaie par laquelle elle se nourrissait et qui avait remplacé sa bouche. Puis, à deux mains, elle fit glisser la lame de gauche à droite.
« Eldon !»
hurla-t-elle. De fines gouttelettes de sang jaillirent de sa bouche réouverte. Sa voix était éraillée, abîmée par ses numéros de ventriloque, supposais-je, mais la force avec laquelle elle prononça son premier mot sans être obligée de le projeter des profondeurs de sa gorge suffit à attirer l'attention de son frère, malgré le bourdonnement. Il se retourna et il la vit, réellement, pour la première fois.
« Eldon ! Arrête ! Pendant que c'est encore possible !»
Il hésita. La forêt de tentacules, plus nombreux maintenant, beaucoup plus nombreux, dansait. Était-ce de l'amour que je voyais dans ses yeux brouillés ? Des regrets ? Du chagrin et de la honte pour avoir maudit la seule personne qu'il avait jamais aimée en même temps que tous ceux qui le méprisaient ? Ou bien était-ce uniquement le besoin de préserver ce qui lui échappait après un règne qui avait été trop court ? Mais est-ce que nous n'avons pas tous cette impression quand vient la fin ? Je l'ignorais. Je dévalais les dernières marches et dépassais le palanquin. Je n'avais aucun plan en tête, juste la volonté d'emmener Léa avant que la chose émerge du puits. Je repensais au cafard géant qui avait réussi à atteindre le cabanon et que M. Boditch avait abattu. Cela me rappela, pas trop tôt, que j'avais toujours son revolver. Léa pénétra au cœur de cette masse ondulante de tentacules sans avoir conscience du danger qu'il représentait, apparemment. L'un d'eux caressa sa joue. Eldon continuait à la regarder. En pleurant,
« Va-t'en »
dit-il de sa voix rauque.
« Va-t'en pendant que tu le peux encore. Je suis incapable de... »
Un autre tentacule s'enroula autour du cou de Léa, qui se marbra de sang. De toute évidence, Eldon n'était pas capable, en effet, de dompter la partie de lui-même qui avait été possédée par cette chose dans le puits. Parmi tous les livres qu'il avait lus à la bibliothèque du palais, n'y en avait-il pas un seul qui renfermait le récit le plus élémentaire, présent dans toutes les cultures, qui dit qu'il ne faut jamais signer un pacte avec le diable ? J'agrippais le tentacule, il faisait peut-être partie d'un bras à l'époque où Eldon avait conclu ce pacte maléfique, et tirais dessus de toutes mes forces pour l'obliger à lâcher prise. Il était dur et enduit d'une substance visqueuse. Maintenant qu'il n'étranglait plus Léa, je le lâchais. Un autre s'enroula aussitôt autour de mon poignet, et un autre autour de ma cuisse. Ils m'entraînèrent vers Eldon, et le puits qui s'ouvrait. Je levai l'arme de M. Boditch, mais avant que je puisse presser la détente, un tentacule enveloppa le canon et m'arracha le revolver, qu'il envoya valdinguer sur le sol en pierre brute, en direction du palanquin abandonné. Radar s'était posté entre Eldon et le puits, poil hérissé, et elle aboyait si rageusement que de la bave jaillissait de sa gueule. Elle bondit pour mordre. Un tentacule, relié à la jambe gauche d'Eldon, claqua comme un fouet et expédia ma chienne au tapis. Pendant ce temps, j'étais entraîné vers l'avant. Si le monstre pleurait à cause de sa sœur, il affichait malgré tout un large sourire en savourant par avance son effroyable victoire, réelle ou imaginaire. Deux autres tentacules, plus petits, émergèrent de ce rictus pour humer l'air. La grue continuait à soulever la trappe, mais quelque chose, dessous, poussait en même temps pour élargir l'ouverture. « Il y a un autre monde là-dessous, » pensais-je. « Un monde noir que jamais je ne veux voir. »«
Tu étais de mèche avec eux !»
cria la créature flasque au visage vert à Léa,
tu étais de mèche. Sinon, tu serais venu avec moi. Tu aurais été ma reine.
D'autres appendices de Flykiller l'emprisonnèrent. Les jambes, la taille, le cou encore, et l'attirèrent vers eux. Une chose sortait du puits. Une substance noire et adipeuse, hérissée de longues épines blanches, qui s'écrasa sur le sol dans un claquement humide. C'était une aile.
« C'est moi, la reine !»
hurla Léa.
« Tu n'es pas mon frère. Mon frère était un homme bon. Toi, tu es un assassin et un imposteur !»
Elle plongea son poignard, encore rouge de son propre sang, dans l'œil de son frère. Les tentacules la lâchèrent. Eldon recula en titubant. L'aile frappa le sol, projetant une bouffée d'air fétide en plein dans mon visage. Elle s'enroula autour d'Eldon. Les épines le transpercèrent. Il fut entraîné vers le bord du puits et poussa un ultime hurlement strident avant que la chose plante ses épines crochues dans sa poitrine et la tire dans le puits. Mais avoir récupéré sa marionnette ne suffisait pas à cette chose. Une bulle de chair extraterrestre sortit du puits. D'énormes yeux dorés nous dévisagèrent au milieu d'un visage qui n'existait pas. Il se produisit un raclement, un grincement, et une deuxième aile couverte d'épines émergea. Elle tapota le sol comme on cherche à tâtons, et un nouveau souffle d'air putride me frappa de plein fouet. Cria Léa. Le sang s'échappait de sa bouche, déchiquetée, enfin libérée. Quelques gouttes de sang grésillèrent au contact de la chose qui émergeait.
« Moi, reine d'Empis, je te l'ordonne !»
L'apparition continuait à sortir de son antre en battant maintenant de ses deux ailes épineuses. Des filaments de fluide pestilentiel en jaillirent. La lumière produite par les lunes brisées n'avait cessé de faiblir et je vis à peine la chose bossue et tordue qui s'élevait et dont les flancs se gonflaient et se dégonflaient à la manière d'un soufflet. La tête d'Eldon disparut à l'intérieur de cette chair répugnante. Son visage mort, figé dans une ultime expression d'horreur, nous regardait comme un homme qui s'enfonce peu à peu dans des sables mouvants. Les aboiements de radar ressemblaient davantage à des hurlements maintenant. Je pense qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de dragon, mais pas du genre de ceux qu'on voit dans les contes de fées. Il venait d'au-delà de mon monde et de celui de Léa. Le puits obscur s'ouvrait sur un autre univers qui dépassait tout entendement humain. Et l'injonction de Léa ne parvint pas à arrêter le processus. La chose sortait. La chose sortait. Les deux lunes s'étaient embrassées. Et bientôt, elle serait libre. 9. Léa ne réitéra pas son ordre. Sans doute avait-elle jugé que c'était inutile. Elle se contenta de tendre le cou pour voir cette chose sortir du puits. Radar, elle, continuait à aboyer, sans s'arrêter, et, miraculeusement, héroïquement, elle tenait bon. Je compris que j'allais mourir, et que ce serait un soulagement. En supposant, évidemment, que la vie ne se poursuive pas dans un effroyable bourdonnement infernal. Une fois que Léa, Radar et moi, on aurait été engloutis par cette créature extraterrestre, j'avais lu quelque part que dans ces moments-là, on voyait sa vie défiler devant ses yeux. Ce que je vis passer, semblable aux illustrations d'un livre qu'on feuillette rapidement, ce sont tous les contes de fées que j'avais rencontrés à Empis. La savetière et la gardeuse d'oie, les maisons des trois petits exilés, ou encore Les méchantes petites sœurs qui refusaient d'emmener leur jolie petite sœur ou leur petit frère difforme au bal. La chose grossissait et grossissait encore. Ses ailes couvertes d'épines claquaient. Le visage d'Elden avait disparu dans ses entrailles insondables. Je songeais alors à un autre conte de fées. Il était une fois un méchant petit homme nommé Christopher Paulet qui voulait voler l'or de Monsieur Bodditch. Il était une fois un méchant petit homme nommé Peterkin qui s'amusait à torturer le Snab avec un poignard. Il était une fois une femme, ma mère, renversée par la camionnette d'un plombier sur le pont de Sycamore Street, qu'il avait tué sur le coup en l'écrasant contre le garde-corps. Sa tête et son torse avaient été projetés dans la Little Rumpel River. Encore et toujours, Rumpelstiltskin. Depuis le début, le conte de fées originel, pourrait-on dire. Et comment la fille de la reine faisait-elle pour se débarrasser de ce nain horripilant ? « Je connais ton nom !» m'écriai-je. Cette voix n'était pas la mienne, de même qu'un grand nombre de pensées et d'idées dans cette histoire n'appartenaient pas au garçon de 17 ans qui avait débarqué à Impis. C'était la voix d'un prince, qui n'était pas de ce monde, ni du mien. J'avais commencé par appeler Impis l'autre, mais l'autre, c'était moi. Je demeurais Charlie Reed, bien sûr, mais j'étais aussi quelqu'un d'autre, et il ne faisait aucun doute dans mon esprit qu'on m'avait envoyé ici, que mon réveil avait été remonté et réglé des années plus tôt, quand ma mère avait traversé ce pont en grignotant une aile de poulet, uniquement en vue de cet instant. Plus tard, lorsque la personne que j'étais dans ce monde souterrain commencerait à s'estomper, je douterais, mais à ce moment précis, non! « Je connais ton nom, Gog Magog, et je t'ordonne de regagner ta tanière !» Il hurla. Le sol de pierre trembla et se fissura. Au-dessus de nous, très loin, des tombes libéraient de nouveau leurs morts et une immense crevasse traversait en zigzag le terrain des monarques. En battant, ses énormes ailes faisaient pleuvoir des gouttes puantes, brûlantes comme de l'acide. Mais vous savez quoi ? J'aimais ce hurlement, car j'étais un prince des ténèbres, et c'était un hurlement de douleur. Gog Magog ! Gog Magog ! Ton nom est Gog Magog ! Il hurlait chaque fois que je prononçais son nom. Ses braillements résonnaient dans ce monde, mais aussi au plus profond de ma tête, comme le bourdonnement précédemment, menaçant de dynamiter mon cerveau. Les ailes battaient frénétiquement, les yeux énormes me foudroyaient. « Retourne dans ta tanière, Gog Magog ! Tu pourras revenir, Gog Magog, dans 10 ans ou 1000 ans, Gog Magog ! Mais pas aujourd'hui, Gog Magog ! » J'écartai les bras. « Si tu m'engloutis, Gog Magog, je ferai exploser tes tripes en prononçant ton nom avant de mourir !» Il commença à reculer en repliant ses ailes sur ses horribles yeux fixes. Sa descente dans le puits produisit un bruit visqueux qui me donna envie de vomir. Je me demandais comment obliger cette grue à refermer la trappe, mais Léa détenait la réponse. Sa voix était éraillée, brisée. Toutefois, n'était-ce pas des lèvres que je voyais émerger des ruines de sa bouche ? Je n'en étais pas certain, mais après avoir été contraint d'ingurgiter de force tant de réalités invraisemblables, j'avalais celle-ci de bon cœur.
« Ferme-toi, au nom de Léa des Galiens !»
Lentement, beaucoup trop à mon goût, la grue commença à abaisser la trappe. Le câble se détendit et enfin le crochet se balança librement dans le vide. Je soufflais. Léa se jeta dans mes bras et me serra aussi fort qu'elle le pouvait. Le sang qui coulait de sa nouvelle bouche était chaud dans mon cou. Quelque chose me percuta par derrière. C'était Radar, Dressée sur ses pattes arrière, ses pattes avant appuyées sur mes fesses, elle remuait la queue frénétiquement. « Comment as-tu su ?» me demanda Léa de sa voix enrouée. C'est une histoire que me racontait ma mère. Et en un sens, c'était la vérité. En mourant jadis, elle m'avait raconté cette histoire aujourd'hui. Il faut filer d'ici sans tarder, Léa. Sinon, on devra avancer à tâtons dans le noir et arrêter de parler. Je vois que c'est très douloureux.
Oui, mais c'est une douleur merveilleuse.
Elle montra le palanquin.
Ils ont certainement emporté au moins une lampe. Il te reste des allumettes.
Étonnamment, oui. Main dans la main, on marcha jusqu'au palanquin abandonné, avec radar entre nous. Léa se baissa en chemin, mais je n'y prêtais pas attention. J'étais trop occupé à trouver de quoi éclairer mon chemin avant que la lumière des lunes fracassées disparaisse totalement. J'écartai un des rideaux du palanquin et découvris, recroquevillé dans le coin, l'unique membre de la suite d'Elden que j'avais oublié. Flight Killer, avait dit Perceval. Quatre autres et la putain. Les cheveux de Petra s'étaient détachés de l'enchevêtrement de perles qui les maintenaient attachés. Son épais maquillage blanc s'était fissuré et avait coulé. Elle me regardait avec un mélange d'horreur et de haine.
« Tu as tout gâché, sale môme détestable !»
L'expression « sale môme » me fit sourire. « Non, non, ma jolie. Les coups font mal, mais les mots ne peuvent m'atteindre. » À l'avant du palanquin, à un petit crochet de cuivre, était suspendu ce que j'espérais trouver, une de ces lampes en forme de torpille.
J'étais sa consort. Tu comprends ce que ça veut dire? Il m'avait choisi. Je le laissais me toucher avec ses horribles serpents qui étaient devenus ses bras. Je léchais sa bave. Il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Tout le monde le voyait bien et je serais montée sur le trône.
Cela ne méritait aucune réponse à mon humble avis.
« J'aurais été la reine d'Empis !»
Je pris la lampe. Les lèvres de Petra se retroussèrent sur des dents taillées en pointe, comme celles de Anna. C'était peut-être la dernière mode à la cour infernale de Flight Killer. Soudain, elle plongea vers moi et planta ses crocs dans mon bras. La douleur fut immédiate et atroce. Un filet de sang s'échappait de sa bouche. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Je tentai de me libérer. Ma chair se déchira, mais ses dents y restèrent accrochées.
« Petra !»
La voix de Léa n'était plus qu'un grognement rauque.
« Prends ça, vieille sorcière puante !»
Le rugissement du revolver de Monsieur Boditch, que Léa avait ramassé par terre, fut assourdissant. Un trou apparut dans la croûte de maquillage blanc, juste au-dessus de l'œil droit de Petra. Sa tête fut projetée en arrière, et avant qu'elle s'écroule sur le plancher du palanquin, je vis une chose dont je me serais volontiers passé. Un morceau de mon avant-bras, de la taille d'une poignée de porte, pendait entre ses dents affilées. Léa n'hésita pas. Elle arracha un des rideaux du palanquin et déchira une longue bande de tissu dans le sens de la hauteur qu'elle noua autour de la plaie. Il faisait presque noir maintenant. J'avançais mon bras valide dans l'obscurité du palanquin pour décrocher la lampe. L'idée que Petra puisse ressusciter et se jeter sur moi était ridicule, mais tenace. Je faillis la laisser tomber. Prince ou pas, je tremblais sous le choc. J'avais l'impression que Petra ne s'était pas contentée de me mordre le bras. Elle avait versé de l'essence dans la plaie avant d'y mettre le feu. « Allumez la lampe, dis-je. Les allumettes sont dans l'étui du revolver. » Je la laissai farfouiller, puis je l'entendis frotter une des allumettes sur le côté du palanquin. Je soulevai le verre de la lampe. Léa tourna une petite molette sur le côté pour faire sortir la mèche et l'enflamma. Elle me prit ensuite la lampe des mains. Tant mieux, car je l'aurais laissé tomber. Je me dirigeais vers l'escalier en colimaçon, en songeant que je serais heureux de ne plus jamais en revoir un seul, mais elle me retint et m'obligea à me baisser vers elle. Je sentis sa bouche déchiquetée frôler mon oreille lorsqu'elle murmura
« C'était ma grand-tante !»
« Elle était beaucoup trop jeune pour être votre grande quoi que ce soit, » voulus-je répondre. Puis je repensai à M. Bodich, qui était parti en voyage et était revenu dans la peau de son propre fils. « Fichons le camp d'ici et n'y revenons jamais, » dis-je.